Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, nous allons parler des relations économiques entre les États-Unis et l'Afrique. Même s'il faut le dire, les pays africains n'attendent pas grand-chose du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et puis nous parlerons de la visite à Dakar d'une importante délégation marocaine de la Chambre de commerce d'industrie et de services de la région de Sousse-Massa. Il était question de favoriser les échanges et de consolider les liens économiques et culturels entre le Sénégal et le Maroc. Et nous resterons en Afrique de l'Ouest pour parler des opportunités d'investissement qui s'offrent entre le Maroc et la Guinée-Conakry. Ce sera dans la Destination Éco avec Idriss Lingé. Tels sont les principaux titres de votre émission. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
C'est l'actualité planétaire de la semaine. Donald Trump va faire son retour à la tête de la première puissance économique mondiale dès le 20 janvier prochain. Le républicain a remporté la présidentielle et bien évidemment, dans chaque région du monde, on se demande quelles seront les répercussions de ce comeback de Donald Trump. En Afrique, on ne s'attend pas à grand-chose, même si le cadre de coopération économique avec les États-Unis est régi par certains accords comme l'AGOA. Je vous propose d'écouter l'analyse de Zakaria Aboud-Dahab, professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat, qui espère qu'il y aura un développement positif.
Un levier institutionnel à réactiver parce qu'il y a ce qu'on appelle l'accord AGOA, c'est-à-dire le African Growth Opportunity Act. Et je crois que les États-Unis, de M. Trump aujourd'hui, avec les conseillers et ses conseillers, vont être plus attentifs, entre guillemets, aux questions africaines, de façon générale. Et moi, je crois que M. Trump, durant ces quatre précédentes années, le premier mandat, n'avait pas véritablement été, on va dire, intéressé par l'Afrique. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, il y avait en septembre 2023, l'année dernière, une initiative importante qui a été prise, alors je dis par l'État américain cette fois-ci, c'est l'initiative Atlantique. Elle est globale et donc elle nous concerne directement parce qu'elle se recoupe directement avec l'initiative Sa Majesté, donc ça concerne le Maroc jusqu'en Afrique du Sud en passant par la Namibie et par l'ensemble, ce sont les 23 pays, c'est important, y compris le golfe de Guinée. Ça comprend aussi des pays comme le Royaume-Uni, comme le Portugal. Et c'est une projection intéressante. Voilà un aspect et un levier important que M. Trump et son équipe pourraient utiliser ou activer ou réactiver pour réaliser des objectifs partagés en termes de lutte contre la piraterie maritime, la sécurisation, la dépollution, etc.
Direction Dakar, la capitale sénégalaise, où une importante délégation marocaine de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de la région Sousse-Massa a séjourné ces derniers jours. Il était question de favoriser les échanges et de consolider les liens économiques et culturels entre le Sénégal et le Maroc. Je vous propose d'écouter le président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Sousse-Massa, Saïd Dorro.
Des rencontres bilatérales entre les membres de cette délégation qui comprend un certain nombre de secteurs économiques importants et qui vont être mis en vis-à-vis avec leurs homologues sénégalais où il va y avoir également la rencontre avec les hommes d'affaires de Thiès. Nous savons que Thiès est une région très agricole.
La première édition du Salon des plantes vient de se tenir à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'objectif est de les valoriser et tirer profit de leur potentiel. Je vous propose d'écouter ce reportage de notre correspondant Mel Berchel.
le néré, le baobab, le karité, autant de plantes africaines aux multiples vertus, utilisées depuis des siècles pour l'alimentation, les soins et même les rituels culturels. Ces espèces souvent sauvages sont aujourd'hui menacées par la déforestation et le changement climatique. À l'effet de valoriser les espèces indigènes des plantes d'Afrique dans une perspective de développement durable, un salon des plantes d'Afrique est organisé à Abidjan à l'initiative de l'Association pour les plantes d'Afrique. Lors de la première édition, le commissaire général a souligné la pertinence du projet. Ibrahim Ouattara.
Puisqu'il y a des personnes qui vivent de l'exploitation économique de ces espèces-là, donc c'est de travailler avec les acteurs pour qu'on en tire davantage de bienfaits. Déjà qu'on les préserve, qu'on puisse, en les préservant, déjà continuer à bénéficier de ce qu'elles nous ont toujours apporté, et puis qu'on voit dans quelle mesure on peut davantage en bénéficier.
Ce premier salon des plantes d'Afrique qui vise également à mettre en valeur cette flore unique et à encourager une gestion durable de ses ressources a réuni experts, chercheurs et passionnés. François Malan, enseignant-chercheur.
Les premiers colons, par exemple, se sont étonnés de savoir que ce que nous mangions n'était pas très riche en minéraux, etc. Mais ils ne constataient pas de signes de malnutrition. Mais justement parce que les plantes, par exemple, qui poussaient de façon naturelle, pouvaient offrir des éléments nutritifs qui complétaient cet aliment-là riche en féculents. Donc vous voyez que si ces plantes-là se raréfient, on a des problèmes tant en santé que même pour la nutrition.
Cet événement met aussi en avant des plantes méconnues révélant leur potentiel économique et thérapeutique. Raymond Glélé et Marie-Jeanne Kwame, exposants.
Nous avons tout en Afrique ici, on ne connaît pas l'utilisation des plantes. C'est une plante qu'on n'aime pas rester dans les salubrités. Bon, ici, bon, on gère les plantes dans les ordures qu'on sort. Non, faut nettoyer en bas de l'arbre de... Parce que les feuilles qui sont tombées là, ce sont des feuilles qui sont impropriément, ça soit même itère.
Tout ça, c'est du naturel. Ça veut dire que préservons vraiment nos plantes. C'est très important parce que ça guérit. Ça guérit. Nous sommes là. Même pour nous, ces médicaments aussi, on a un problème d'yeux. Il y a des plantes pour soigner les yeux. Il y a des plantes pour soigner les problèmes d'oreilles. Tout ce qui est mot.
Le Salon des plantes d'Afrique se veut être une plateforme d'échange et de réflexion pour préserver la richesse naturelle de l'Afrique. Une première édition qui ouvre la voie à une mobilisation nécessaire pour un avenir durable. Mel Berchel, Abidjan, Midi 1.
Merci à vous, Mel Berchel, correspondant de Midi 1 à Abidjan.
Zoom Express.
Et comme chaque semaine, nous avons le plaisir de parler de cette Afrique qui bouge, cette Afrique qui transforme, donc cette Afrique qui contribue à l'émergence économique du continent, et cela c'est bien évidemment à travers les fils de l'Afrique, qu'ils soient dans le continent ou dans la diaspora. Et justement, en parlant de cette diaspora, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Sadi Djemé. Il est originaire du Sénégal, mais il est basé en Allemagne. Il est actif dans le consulting et la promotion immobilière, et à travers ses activités, il développe donc des projets de construction au Sénégal de logements qui utilisent des matériaux locaux, comme notamment c'est dans la construction avec des briques rouges. Un projet pilote d'ailleurs est déjà lancé dans ce sens. Bonjour à vous, Sadi Djemé. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, M. Baldé. Merci, le plaisir pour moi.
Alors, plaisir. Et bonjour, Moustapha. Partager. Justement, voilà. Moustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique, est avec moi également en ligne. Bonjour à vous, Moustapha El Bouri.
Bonjour.
Alors, je rappelle que la plateforme Best Afrique donc, connecte les investisseurs, notamment des diasporas. Hein. Je parlerai de diaspora au pluriel, puisque c'est aussi bien les diasporas africaine à l'étranger que les étrangers en Afrique. Alors, Sadi Djemé, tout d'abord, parlez-nous de votre domaine d'activité.
Tout dernièrement, en fait, nous avons créé une structure dénommée DW, Solution Group Consulting, et nous allons agir donc surtout dans le secteur secondaire. Et maintenant, en fait, on s'est lancé dans ce projet. Le projet en herbe, je peux dire simplement, et dans la production de briques rouges pour la construction, donc pour l'immobilier, pour en fait viser un certain angle en fait de l'aspect immobilier. Mmh. Voilà, c'est ça. Mmh. Mmh.
Alors, donc il s'agit bien évidemment donc de la production de briques d'argile. Hein. La vision, c'est d'avoir donc oui, des habitats, disons un cadre d'habitation qui respecte les normes environnementale et surtout pour la classe moyenne. Justement, et pour ça, je me tourne vers voilà. Moustapha El Bourri. Alors, Moustapha El Bourri, est-ce cette prise en compte de l'aspect environnemental dans la promotion immobilière en Afrique est quelque chose que vous sentez?
Omar, déjà, je voudrais dire que le logement est un domaine qui est assez critique sur l'Afrique et notamment sur l'Afrique subsaharienne. Il y a un paradoxe. Si on prend aujourd'hui le Sénégal, l'offre elle est inférieure à la demande et malgré ça, une grosse partie de la population n'a pas encore accès au logement à cause du coût. Voilà. Et donc c'est vrai que le projet de Sadi est un très bon projet dans le sens où aujourd'hui le coût du ciment est très élevé et devient très très élevé. Donc le coût de construction des habitats a connu une hausse très très importante. Donc il y a ce côté coût et bien entendu il y a ce côté aussi environnemental qui est très important. Et puis utiliser des matériaux locaux, je pense que ça va engendrer aussi un certain nombre d'emplois locaux aussi. Hein, donc c'est vraiment il y a vraiment beaucoup d'avantages à ça.
Mmh. Alors, justement, Sadi Djemé, dans cette optique, sentez-vous qu'il est facile de concrétiser ce genre de projet à travers donc, les pays du continent?
Mais si, écoutez, d'abord, c'est au niveau donc, de l'investissement. Si d'abord, au niveau du Sénégal, les poches donc de d'investissement donc s'ouvrent à nous pour cela, ben on s'y lance. Ben si maintenant il y a pas de partenaires locaux qui peut-être veulent investir dans ce domaine, ben écoute, l'investissement viendra évidemment d'autres plateformes, d'autres structures, et ça nous n'avons pas de problème pour lever des fonds pour cela. Mais nous savons qu'en fait, en jetant donc les bases des projets pilotes et que nous présenterons comme il faut, parce qu'en fait, je pense que les gens commencent à bien voir, à ouvrir les yeux par rapport donc aux possibilités qu'ont les Sénégalais entre les mains et par rapport à la conjoncture actuelle. Et il suffit justement en fait de donner en fait une proposition assez alléchante donc pour qu'en fait ce marché soit quand même je pense accessible à un certain nombre de Sénégalais surtout en fait à la classe moyenne.
Très bien. Alors en fait, je me tourne vers Moustapha El Bourri, oui. Hein, peut-être pour clore. Alors Moustapha El Bourri, quelle perspective d'avenir voyez-vous donc pour ce segment de construction, notamment en utilisant les matériaux locaux?
Moi, je pense que c'est vraiment, comme a dit un peu Sadi, un retour aux méthodes ancestrales, qui étaient des très bonnes méthodes. Aujourd'hui, un grand avantage à utiliser ces matériaux, c'est qu'ils sont disponibles déjà. La terre rouge est très disponible au Sénégal, comme elle est au Maroc, comme elle est dans beaucoup de pays. Donc, déjà, on a la matière première qui est dispo. Donc, la matière première est disponible. Et le fait justement encore une fois, il y a beaucoup de, au-delà aussi de l'avantage environnemental comme on l'a cité, il faut savoir qu'en utilisant les briques rouges traditionnelles, on a un effet de l'été par exemple, on a un effet de refroidissement naturel de l'habitation, et l'hiver pareil, l'hiver ces briques rouges traditionnelles gardent la chaleur à l'intérieur des constructions, donc on a un double avantage. Et donc on a l'avantage aussi de réduire les dépenses énergétiques. Mmh. Donc je pense que c'est un très très bon projet et je pense qu'on doit revenir à toutes ces méthodes.
Mmh. En tout cas,
comme j'ai dit, la matière est disponible.
La matière est disponible et certainement aussi la volonté ne manque pas quand on voit donc des entrepreneurs à l'image donc de Sadi Djemé. Merci à vous deux d'avoir accepté donc notre invitation. Sadi Djemé,
merci
aussi à Moustapha El Bourri.
Merci beaucoup. Le
et
plaisir,
au plaisir de vous retrouver prochainement dans Coémergence. Merci.
Merci beaucoup.
Destination Éco.
Et nous mettons le cap sur la Guinée-Conakry. Comment se porte l'économie de ce pays d'Afrique de l'Ouest très riche en ressources naturelles? Pour en savoir plus, j'ai le plaisir d'accueillir Idriss Lindjé. Idriss Lindjé est le directeur des rédactions de Media Mania qui édite entre autres l'agence panafricaine Ecofin. Et comme chaque semaine, Idriss Lindjé donc nous parle d'une économie du continent. Et cette semaine, donc, on parle de la Guinée. Bonjour à vous, Idriss Lindjé. Alors, faites-nous un peu la météo de l'économie guinéenne.
Bonjour Omar Baldé et à tous nos auditeurs. Nous allons parler aujourd'hui de la Guinée, la Guinée-Conakry. C'est un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest. Il fait partie de la CEDEAO et c'est une nation qui est aujourd'hui en pleine transformation économique. Traditionnellement, l'agriculture est le secteur qui a le plus occupé les gens, comme d'ailleurs partout en Afrique. Mais le pays a su se diversifier grâce à l'exploitation de ses ressources minières. En 2023, le produit intérieur brut à parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire la valeur du produit intérieur brut par rapport à ce qu'on peut acheté à l'intérieur de l'économie guinéenne, était de 56,7 milliards de dollars, à ne pas confondre avec le produit intérieur brut à valeur constante ou alors à valeur du marché, qui lui n'était que de 23 milliards. Et c'est la preuve d'ailleurs que le pays a certainement une richesse qui est générée, mais qui doit encore trouver un marché, un système productif qui permet à tout le monde de pouvoir acquérir des biens à des prix beaucoup moins chers. Cela dit, le secteur minier est le pilier de cette économie, avec notamment une contribution au PIB qui a augmenté de 22%. Ça, c'est lorsqu'on prend, par exemple, le PIB sous le prisme de la productivité. Mais en termes de PIB, mécanisme de consommation ou d'investissement, la consommation reste le moteur du PIB en Guinée-Conakry. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on puisse investir pour permettre à ces gens qui ont une grande propension quand même à consommer de pouvoir acquérir des biens à des prix beaucoup moins chers. Alors, les principaux partenaires commerciaux de la Guinée, personne ne peut s'y tromper. C'est la Chine. 36,9% des exportations de la Guinée vont en Chine, c'est clair. Les Chinois ont mis la main sur le fer. Mais on a aussi l'Inde, les Émirats Arabes Unis, la Suisse, l'Espagne. L'Espagne un peu moins, 2%, la Suisse 3%. Mais du côté des importations, la Chine, aucune surprise, reste le premier fournisseur de la Guinée-Conakry. 37,4%, l'Inde 9,7%, et on retrouve les Pays-Bas, les Émirats Arabes Unis et la Belgique. Les perspectives économiques de la Guinée sont plutôt prometteuses. La Banque mondiale estime que la croissance devrait se situer sur une moyenne de 6,2% entre 2025 et 2026, ce qui est un niveau au-dessus de la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Cette croissance sera soutenue par de nouveaux investissements, notamment dans les projets miniers. Mais on l'a dit que les mines à elles seules ne suffisent pas à créer la prospérité. Ou alors le fait qu'on investisse sur les mines donne l'opportunité d'investir sur des secteurs qui permettent à la population d'avoir un pouvoir d'achat beaucoup plus important.
Alors Idriss Lindjé, quelles sont les opportunités d'investissement qui s'offrent aux investisseurs, notamment marocains?
Alors, quant aux relations économiques entre la Guinée et le Maroc, elles se renforcent. Il y a eu récemment un forum économique Guinée-Maroc qui réunissait des acteurs économiques des deux pays. Des accords ont été signés. Le Maroc est un des pays qui compte dans l'écosystème de la Guinée-Conakry. Et il y a toujours plus d'opportunités pour les Marocains qui ont la technologie pour des meilleurs rendements agricoles, qui sont capables de dynamiser le secteur des services, qui sont aussi capables de pouvoir dynamiser le secteur du logement. Donc, en conclusion, la Guinée offre un potentiel économique significatif avec des opportunités dans les secteurs de l'agriculture, dans les secteurs de l'externalité du secteur minier, notamment les services d'accompagnement de l'exploitation minière. Et pour transformer cette croissance en développement durable, je pense que il y a des choses à faire qui peuvent être autant d'opportunités pour des investisseurs de plusieurs autres pays, mais surtout peut-être du Maroc.
Merci à vous, Idriss Lingé. Je rappelle que vous êtes le directeur des rédactions de la plateforme Media Mania, qui édite entre autres l'agence panafricaine Ecofin, spécialisée dans l'actualité économique et financière du continent. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.